Merci d'écouter RFI, les 5h30, ici à Paris comme à Kinshasa, 6h30 à Goma et Bukavu. Et c'est l'heure de retrouver Pierre Boudias pour l'Info africaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Le M23 toujours à l'offensive dans l'est de la RDC. Les hommes du groupe progressent dans le sud Kivu et sont apparus dans la capitale provinciale Bukavu. Le président Tshisekedi annule sa participation au sommet de l'Union africaine. Parmi les enjeux de cette 38e réunion des chefs d'État de l'organisation continentale, l'élection du président de la commission, trois candidats en lice pour succéder à Moussa Faki Mahamat. Nous ferons le point sur les forces en présence dans ce journal. Elle n'était plus la bienvenue dans le pays. La directrice du programme alimentaire mondial au Burundi, forcée de quitter le territoire hier. Le gouvernement lui reproche d'avoir ordonné à son organisation de faire des réserves en prévision d'une crise sécuritaire. Et puis des semences locales pour Madagascar et les Comores. C'était l'objectif d'un programme piloté par l'Union européenne, lancé il y a 5 ans. Et vous l'entendrez, les résultats sont porteurs d'espoir. Nouvelle percée du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé soutenu par le Rwanda poursuit son offensive dans le sud Kivu ces dernières heures. Après s'être emparé de l'aéroport de Kavumu hier, les combattants de la milice sont apparus en début de soirée à Bukavu, capitale provinciale située à une trentaine de kilomètres plus au sud. Information confirmée par une source gouvernementale. Et l'approche des combats a provoqué une quasi-paralysie de la ville. Le récit de Patient Ligodi.
La progression de l'AFC M23 a été fulgurante à Kavumu et les affrontements signalés plus tôt dans les environs ont cessé à la mi-journée. À Bukavu, l'impact a été immédiat, une ville paralysée qui ressemblait à une ville morte. Selon des témoignages concordants, commerce, école, boutique, tout a été fermé dans la précipitation. Dans l'après-midi, la circulation était quasi inexistante, les habitants rentraient à pied. Quelques tirs sporadiques ont été entendus dans certains quartiers et depuis Munich, où il participait à une conférence internationale. Félix Tshisekedi n'a pas commenté directement les derniers développements sur le terrain, mais il reste catégorique. Pas de négociation avec l'AFC M23. Pour lui, ce groupe armé n'est qu'un paravent que le Rwanda met en avant. Mais derrière, c'est bien l'armée rwandaise qui mène les combats. Le président congolais va plus loin et accuse directement son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être impliqué dans l'opposition armée. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila, mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions, a-t-il dit.
Patient Ligodi. Et suite à ces événements, le président Félix Tshisekedi a donc écourté hier vendredi son séjour en Allemagne, où il participe à une réunion sécuritaire pour rentrer à Kinshasa. La présidence a annoncé dans la foulée qu'il ne se rendra également pas au sommet de l'Union africaine qui débute ce samedi à Addis Abeba. L'Union africaine qui a une nouvelle fois appelé au cessez-le-feu en RDC hier, message du président sortant de la commission Moussa Faki Mahamat au sortir d'une réunion du Conseil paix et sécurité de l'organisation, réunion à laquelle a participé le président rwandais Paul Kagame ainsi que le médiateur angolais João Lourenço. La question de la RDC qui sera donc bien sûr au menu du sommet des chefs d'État qui s'ouvre officiellement aujourd'hui. Entre ce dossier et celui de la guerre au Soudan, cette 38e réunion aura un autre enjeu majeur, l'élection du nouveau président de la commission de l'UA, un numéro 1, élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. La concurrence est rude entre les trois candidats en lice qui se livrent une bataille pour se rattacher le soutien des États membres. Explication Clotilde Hazard.
Tous les pronostics sont encore permis. Les candidats doivent obtenir la majorité des deux tiers sur les 49 États membres votant pour gagner. Si le favori du scrutin, le Kenyan Raila Odinga, ne parvient pas à réunir la majorité les premiers tours, il pourra se retrouver seul contre le candidat djiboutien Mahamoud Ali Youssouf ou le malgache Richard Andri Amandrato, susceptible alors de le rattraper grâce au report des voix. Soutenu par son gouvernement, l'ancien ministre kenyan de 80 ans affirme avoir sécurisé le vote de 28 pays. Mais jeudi, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a appelé ses 16 États membres à voter pour l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache, ce qui pourrait rebattre les cartes. Mahamoud Ali Youssouf, actuel ministre des Affaires étrangères djiboutien, est un sérieux concurrent loué pour ses compétences par de nombreux États. De plus, les bulletins sont secrets et les ralliements officiels peuvent changer au moment du vote. Le mode de scrutin laisse aussi une autre possibilité. Si les États membres trop divisés ne parviennent pas à dégager une majorité, les élections sont suspendues et le poste reste vacant. C'est alors le vice-président qui assure l'intérim jusqu'à l'organisation d'un nouveau vote. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
Et pour aller plus loin sur ce sommet de l'UE, l'invité de la matinale de ce samedi est la chercheuse Lise Lou Vaudran, spécialiste de l'Union africaine. Interview à retrouver d'ici une vingtaine de minutes. Autre réunion qui se tient à partir de ce samedi, les Assises nationales au Niger. 674 délégués réunis par le pouvoir militaire doivent définir une feuille de route pour la transition dans le pays. Un chronogramme pour le retour à la démocratie pourrait notamment être établi. Les discussions se poursuivront jusqu'au 19 février prochain sans les partis politique toujours suspendue et sans l'ordre des avocats qui annoncent ne pas prendre part à ces négociations. Nouvelle attaque meurtrière dans l'ouest du Burkina Faso. Une dizaine de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués il y a deux jours dans un assaut qui a visé la localité de Tiendougou dans la région des Cascades. Selon une source locale, des hommes lourdement armés et en grand nombre ont attaqué une patrouille des forces armées burkinabées en provenance de Banfora. Hier, d'autres attaques ont visé les villes de Djibo dans la région du Sahel et à Tanoualbougou dans la région de l'Est. Aucun bilan n'est pour le moment disponible, pas de revendication également. RFI, il est 6h35 à Gitega, la capitale burundaise, et l'ensemble du territoire désormais interdit à la représentante du Programme Alimentaire Mondial et à la chargée de sécurité de l'organisation. Sibi Lawson Mario et Saran Guyenne ont quitté le pays vendredi matin après avoir été déclarées persona non grata mercredi par le gouvernement. Les deux femmes épinglées pour avoir demandé à leur personnel de faire des stocks de vivres en cas de coup dur sécuritaire, une décision qui n'a pas plu au gouvernement au Burundi. Willy Diallo.
C'est à bord d'un avion rwandais que la numéro 1 du PAM au Burundi et sa chargée de sécurité ont dû quitter le pays. Le gouvernement leur avait donné 48 heures pour partir après leur avoir notifié leur expulsion. À l'origine de la crise, des consignes sécuritaires internes qui ont été transmises au personnel et ont fuité sur les réseaux sociaux. Elles leur demandaient de faire des stocks pour deux semaines de nourriture, d'eau, de combustible ménager ou encore d'argent en liquide en cas de coup dur sécuritaire. Ces consignes ont été transmises à l'ensemble du personnel et des membres locaux les ont transmises aux autorités et publiées en ligne selon une source interne. Inadmissible pour le gouvernement burundais, pour qui cela viserait à semer la panique au sein du corps diplomatique et de la population. Les deux responsables ont donc été accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et poussés vers la sortie. Cette polémique intervient dans un contexte de montée de tensions au Burundi, allié militairement à Kinshasa dans sa guerre contre le M23 soutenue par le Rwanda, qui se rapproche d'autant plus de sa frontière.
Ah oui, Lydie Allo. Au Gabon, le dépôt des candidatures pour la présidentielle aura lieu du 27 février au 8 mars prochain. Décision annoncée par décret suite à un conseil des ministres qui s'est tenu jeudi dernier. La campagne électorale se déroulera sur 14 jours, du 29 mars au 11 avril. Elle se terminera donc la veille du scrutin prévu le 12. Autre nouveauté, tous les candidats seront réunis sur un bulletin unique, une demande de longue date des oppositions. Une figure de l'opposition, cette fois ougandaise, de nouveau devant les juges hier, déjà inculpé pour trahison. L'opposant historique au président Yoweri Museveni, Kizza Besigye, a comparu devant un tribunal civil à Kampala. Cette fois, il doit répondre d'accusations d'incitation à la violence liées aux manifestations qu'il avait organisées en 2022 contre la vie chère. Cette nouvelle comparution intervient alors qu'il était jusqu'ici poursuivi devant un tribunal militaire, une procédure jugée illégale par la Cour suprême il y a deux semaines. Décision qui aurait dû entraîner l'abandon des poursuites contre lui. Toujours en détention, Kizza Besigye a entamé une grève de la faim pour protester contre son maintien en prison, une action qui inquiète ses proches et pour son avocat, Maître Kato Tumisime. Les autorités ougandaises cherchent par tous les moyens à le maintenir en détention. Il est au micro de Christina Okello.
Ils ne peuvent plus le maintenir en détention pour des accusations de trahison ni pour possession illégale d'armes, car les mandats de détention provisoire émis par le tribunal militaire sont arrivés à expiration. Mais pour le garder en prison, ils doivent maintenant fouiller les archives et ressortir d'anciennes affaires en espérant pouvoir fabriquer des témoins qui témoigneraient contre lui afin de justifier en apparence une détention légale. C'est pour cette raison qu'il relance tous ses vieux dossiers. Je pense que la grève de la faim, entamée par le docteur Besigye, joue aussi en leur faveur. L'objectif du fils du président, le général Muhoozi Kainerugaba, est clair, voir le docteur Besigye mort, quel que soit le moyen. Lorsqu'il n'existe aucun mandat de détention valide, aucun fondement légal ne justifie son incarcération. Nous sommes très inquiets pour son état de santé. S'il poursuit sa grève de la faim, les conséquences sur sa vie et sa santé seront graves. Nous pourrions perdre un grand homme et un combattant infatigable.
Et dans un tweet jeudi, le fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, a suggéré que Kizza Besigye devrait accélérer sa grève de la faim et en finir rapidement avec sa vie. Fin de citation. Et puis, tout autre chose pour finir avec le clap de fin pour le SANOI, le programme régional d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région océan Indien. Projet financé à hauteur de 16 millions d'euros par l'Union européenne. Et parmi les dossiers développés, l'un avait pour objectif de relancer les filières semencières de 4 variétés vivrières, le maïs, la pomme de terre, le haricot sec et le manioc. Il s'agissait alors de permettre aux pays de la zone de produire leurs propres semences adaptées à leur territoire et certifiées. Et après 5 ans de programme, les résultats sont bons. Reste désormais à transformer l'essai, Sarah Tetto.
À l'origine du projet Food Sec Semences, un constat, Maurice, les Seychelles, les Comores et Madagascar, malgré leurs différences de niveau de développement, ont au moins un point commun. Aucun n'a la capacité de produire localement des semences saines et de qualité, et ce pour diverses raisons, explique Jérémy Saligné, chercheur au CIRAD Réunion et coordinateur du projet.
Soit parce qu'il n'y a pas de filière semencière développée dans les pays les plus riches qui reposent sur l'importation de semences de qualité, souvent de l'autre bout du monde, comme Maurice, les Seychelles, soit à Madagascar et aux Comores où on repose sur des systèmes d'autoproduction par les agriculteurs qui ont l'avantage de produire des semences facilement accessibles, mais souvent avec des problèmes germinatifs, avec des problèmes de qualité sanitaire ou de qualité génétique où les agriculteurs ne retrouvent pas la variété qu'ils ont voulu conserver d'une année sur l'autre. Donc dans ce contexte-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment construire ensemble des protocoles de production nationaux de semences.
À Madagascar, le programme a donc servi à relancer un système existant quasi à l'abandon, faute de moyens, explique Santach Ravelumanansua, directrice du département de recherche agronomique du FOFIFA, le Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural.
Le projet nous a permis de remettre en état tous nos équipements, également augmenter notre capacité en ressources humaines et on a pu produire des semences de qualité, en quantité aussi. On est arrivé pour le maïs par exemple à 20 tonnes de semences de pré-base.
Des résultats jugés satisfaisants dans les 4 pays bénéficiaires. À Maurice et Madagascar, la production de semences des 4 variétés est désormais opérationnelle. Mais pour assurer la pérennité du projet, reste désormais à créer les conditions pour que ces semences soient accessibles à la vente pour tous les agriculteurs. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 4h42 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Et Afrique Matin, ça continue jusqu'à 5h. Nous